S'il y en a moins, c'est pas très grave, on prendra un peu de... Et donc on commence par des gens des écolos, Manuel qui s'occupe de la vie de l'exposition Garrigue, donc il y a un tout petit module qui est installé à l'accueil et qui est en ce moment dans le Gard. Et puis de Julien et qui lui a fait un stage de géographie avec l'université auprès de nous. Donc plus pour parler de gestion mentale, c'est-à-dire que l'exposition et la tournée de l'exposition donnent lieu à des débats organisés de façon un tout petit peu astucieuse. Et Julien a fait un travail plus de représentation des Garrigues, de représentation mentale, c'est-à-dire quand on dit Garrigue, à quoi passent les gens. Et donc c'est ces deux résultats-là, des débats et de l'enquête, qui vont vous être présentés ici. Et donc c'est plus de dire c'est quoi les Garrigues pour des gens qui ne sont pas forcément des spécialistes ni d'histoire, ni d'écologie, ni de paysage.
Donc bonjour à tous. Donc comme l'a présenté Jean-Paul, en fait, depuis quelques années, les écologistes de Lozère ont lancé un projet Garrigue qui a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est d'abord d'essayer de présenter un petit peu les connaissances qu'on a pu récolter à droite à gauche sur la Garrigue, les présenter au public, et puis essayer aussi de récolter les connaissances qu'il peut y avoir sur le territoire des Garrigues et lancer une réflexion collective sur quel avenir pour les Garrigues languedociennes. Donc dans ce projet Garrigue, une des grosses actions, c'est une exposition itinérante. Cette exposition s'appelle « Mais où sont passés nos Garrigues ?». Elle est composée de plusieurs modules assez interactifs. Et en fait, lorsqu'on se présente dans un village, on y reste en général une semaine, on fait à la fois des animations scolaires, des animations grand public, une sortie toujours sur le terrain de la commune pour voir la Garrigue locale, et puis un débat. Le débat étant un temps fort où on peut réfléchir à l'avenir des Garrigues. Donc l'exposition, elle a commencé à tourner en avril 2007. Jusqu'à aujourd'hui, on a fait 29 lieux différents, 11 000 personnes qui ont été rencontrées, 22 sorties sur le terrain et 21 débats publics. Voilà, sur cette carte, on voit un peu le territoire des Garrigues qu'on a à peu près délimité, sur lequel tourne l'exposition. Alors ce territoire, il est en fait situé entre, au sud, les plaines viticoles, les plaines littorales, en dessous de Montpellier, en dessous de Nîmes, c'est assez facile, la limite sud, c'est le tracé d'autoroute A9. À l'ouest, on a délimité la zone à partir du fleuve de l'Hérault. À l'est, c'est la vallée de la Cèze jusqu'au Rhône. Et au nord, c'est la limite des Cévennes. Donc sur tout ce territoire, il y a une sorte d'homogénéité à la fois au niveau des paysages, mais aussi au niveau des problématiques, des enjeux, et également au niveau de la perception. C'est un endroit que les gens, enfin on verra un peu plus tard, les gens appellent cet endroit la Garrigue. Donc on a essayé de délimiter ce lieu, et on tourne depuis donc avril 2007 avec l'exposition sur ce territoire-là. Donc là, ce qu'on va vous présenter, juste deux points de cette expérience qu'est l'exposition itinérante. Le premier point que présentera Julien, c'est comment les gens se représentent la Garrigue. C'est une question qu'on s'est posée dès le début et qui nous semble vraiment importante parce que nous, on a notre propre vision de la Garrigue, mais et les habitants et les usagers, comment eux se représentent la Garrigue. Le deuxième point, c'est quelles pistes émergent des débats publics sur l'avenir des Garrigues. Qu'est-ce qui ressort un petit peu de ces discussions collectives avec les habitants et les usagers sur qu'est-ce qu'ils souhaitent, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas pour ce territoire des Garrigues. Donc je vais passer la parole à Julien qui nous présente les représentations de la Garrigue.
Bonjour. Donc les représentations de la Garrigue. Donc tout d'abord, pourquoi étudier les représentations? C'est une question qui n'est pas forcément évidente. pense que certains ont connaissent des réponses, mais on peut donner au moins deux raisons à cela. D'abord, étudier les représentations, c'est pour les porteurs d'un projet territorial, arriver à peut-être identifier d'éventuels blocages pour l'acceptation d'un projet ou son appropriation par la population concernée. Ça peut permettre de répondre à des attentes de la population, simplement en les formulant un peu mieux. Et en plus, ça permet de faire un état des lieux des connaissances qui sont partagées par la population, ce qui peut avoir des enjeux pédagogiques. Donc par exemple, avec l'exposition itinérante, on se rend compte de qu'est-ce qu'il faut approfondir et qu'est-ce qu'il faut d'abord expliquer aux gens. Voilà. Donc, merci Manu. Alors, ma méthodologie d'enquête, donc j'ai travaillé à partir d'un recueil de données qu'on a fait sur exposition itinérante sur la période d'avril 2007 à mars 2008. Le principe, c'était qu'à l'entrée de l'exposition, on demandait aux gens de répondre à la question « Et pour vous, qu'est-ce que c'est que la garrigue ?» Donc ils répondaient, ils affichaient leur feuille sur l'arbre des représentations que vous pouvez voir en photo. Donc 350 textes ont été recueillis, sur la base desquels j'ai travaillé. Et voilà, donc mon approche, c'est vraiment basé sur essayer de réfléchir aux thématiques qui sont abordées par les personnes et de voir qu'est-ce qu'on pouvait en faire ressortir. Et l'objectif était d'arriver à comprendre un petit peu quelle relation la population entretient avec le mot garrigue et avec le paysage et le territoire. Donc j'ai dégagé en gros 5 grands groupes de représentation. Là ils sont organisés, donc les cercles les plus gros représentent les informations qui sont revenues le plus souvent au fil des textes. Donc l'information la plus importante, c'était un attachement très fort au lieu. Ensuite c'était un rapport aux besoins de nature qui était souvent exprimé. Puis un symbole de la méditerranéité, vraiment de la méridionalité. Ensuite, c'était une terre qui est façonnée par les hommes. Puis, c'était pour un certain nombre d'entre eux, assez peu quand même, un paysage assez hostile. Donc, l'attachement au lieu, c'est à peu près 2 personnes sur 3 qui affirmaient, donc qui se réclamaient vraiment des garrigues. Donc, on peut dire que c'était un élément identitaire vraiment du paysage. C'est-à-dire que pour les gens, la garrigue, c'est pas seulement un lieu, c'est pas seulement un milieu naturel, c'est surtout un lieu, c'est autour de chez eux, ça sera autour du village ou juste à la sortie de la ville. Pour eux, c'est quelque chose de vraiment d'important. Donc, le besoin de nature qui est aussi souvent exprimé, qui passe par un besoin que les gens d'aller se retrouver en nature, de s'y détendre, de s'y promener, donc pourquoi pas en famille ou pratiquer des loisirs. C'est un petit peu la nature qui va s'opposer au rythme de hebdomadaire, de travail et tout ça. Et ça sera vraiment donc la nature qui est la garrigue, qui s'oppose à la ville. Le symbole de méditerranéité, donc c'est 40% des gens. Donc c'est-à-dire qu'à l'échelle de la France, les gens identifient la garrigue comme un endroit bien typique du sud-est, qui sera donc riche de sa végétation. De sa faune, de sa flore qui est assez originale et exceptionnelle. Ensuite, une terre façonnée par les hommes, donc là c'est 1 personne sur 5, c'est quand même assez peu, mais c'était intéressant de le marquer. C'est l'idée de la transmission de ce territoire et depuis les travaux qui ont été réalisés par les générations passées et l'espèce de passation un petit peu, donc de cet héritage. Donc c'est à la fois un lieu de mémoire et un lieu de patrimoine pour certaines personnes. En dernier lieu, donc, la garrigue, c'est aussi un endroit pas forcément très accueillant, peut-être sans trop d'intérêt pour 15% des personnes. C'est plutôt ce qui est autour de leurs occupations, plutôt un décor et pas vraiment un lieu. Voilà, donc pour conclure un peu sur ça, c'est mon premier point, c'est-à-dire que on constate qu'il y a quand même un très fort attachement des gens à leur territoire et à leur paysage de garrigue. Maintenant, autre chose, donc, on s'est rendu compte que la définition du terme de garrigue était vraiment variable d'une personne à l'autre et qu'il y avait une forte confusion entre ce qui est une définition plus scientifique de la garrigue, qui la définira comme un milieu plutôt ouvert, donc typique du climat méditerranéen sur sol calcaire, avec une végétation plutôt basse, et adaptée à la sécheresse. Ça, c'est une définition bien scientifique. Et après, une autre définition qui sera souvent plutôt plus simple, qui dira que la garrigue, c'est simplement une forêt. Donc, j'ai essayé de réfléchir aux raisons de cette difficulté à définir le paysage. Donc là, comme on peut voir sur les deux photos, c'est deux photos qui sont prises au même endroit, donc du Pic Saint-Loup. La première, sur la gauche, est une photo de 1910, et la seconde, de 1992. Donc, on peut voir qu'il y a eu une forte évolution du paysage. Donc ça explique déjà que les personnes aient du mal à identifier la garrigue, puisque le terme de garrigue est resté, alors que le paysage, lui, a beaucoup évolué. Ensuite, le deuxième élément qui prête un peu à confusion, c'est le fait que, pour la plupart des gens, la nature, c'est tout d'abord une forêt. Et ça, c'est quand même une chose marquante. Donc, si on était amené à poser la problématique de quel paysage on veut mettre en place, peut-être au niveau d'un projet pour ce territoire des garrigues, je pense que la question du paysage et des paysages qu'on veut maintenir est assez importante. Voilà.
Donc, on va voir le deuxième point. Donc là, on a vu plus au niveau des représentations, comment les gens voient la garrigue en la première fois qu'on les contacte. Ensuite, en général, on fait une petite présentation de l'évolution de la garrigue, son historique dans le temps, l'évolution justement de la végétation, et un petit peu les nouveaux enjeux qui apparaissent. Et on essaye de discuter avec le public sur quel avenir pour ce territoire des garrigues. Donc là, je vais vous présenter un petit peu les grandes pistes qui s'en dégagent. Voilà un peu les principaux sujets qui ont été abordés lors des débats. Le sujet le plus abordé, c'est l'étalement urbain, qui est considéré essentiellement comme une menace. Ça est ressorti dans 90% des débats. Un deuxième sujet, c'est plutôt la conservation des patrimoines, patrimoine naturel ou patrimoine humain, qui ressort assez régulièrement dans 75% des débats. Ensuite vient le maintien d'un paysage. C'est plutôt le paysage vu en tant que cadre de vie. On vit en garrigue, on habite en garrigue, on souhaite maintenir ce paysage. Un autre point qui revient très souvent, c'est la crainte de l'incendie. La crainte de l'incendie, ça revient dans 65% des discussions. Ensuite, il y a l'avenir de l'agriculture, sachant que justement, toute l'agriculture a été profondément modifiée sur ces territoires-là. C'est une préoccupation qui revient assez régulièrement. Et en dernier, c'est plutôt les conflits d'usage. Les conflits d'usage qui ressortent parfois de façon très importante, mais sur quelques lieux précis, mais sur l'ensemble des débats qu'on a pu faire, ça représente à peu près 40% des sujets abordés. Alors, ces différents sujets, lorsqu'ils sont abordés, ensuite, ça amène à tout un tas de questionnements, tout un tas de questions qui émergent petit à petit en discutant de ces différents sujets. Par exemple, sur l'étalement urbain, il arrive plusieurs questions. L'étalement urbain, il est dû à une forte pression démographique, mais se pose la question, est-ce qu'il faut bloquer l'urbanisation? Est-ce qu'il faut au contraire plutôt essayer de changer, de modifier les modes et les façons d'habiter? Donc ça, c'est par exemple des questionnements qui émergent à partir de ce sujet-là. Au niveau de la conservation des patrimoines, c'est un peu la même chose. Si on regarde au niveau du patrimoine naturel, on va avoir plusieurs questions. Est-ce qu'il faut garder des milieux ouverts parce qu'il y a un patrimoine particulièrement intéressant? Ou est-ce qu'au contraire, on se dit, ça évolue naturellement puisqu'il n'y a plus d'agriculture, la végétation repousse, c'est un phénomène naturel, on laisse faire? Au niveau du maintien d'un paysage, plusieurs questions également qui émergent de ça, c'est est-ce que on veut conserver le cadre de vie tel qu'il est, du coup bloquer la dynamique du paysage, ou est-ce qu'on considère qu'un paysage se modifie toujours et du coup on accompagne ces modifications du paysage? Au niveau de la crainte de l'incendie, Les questions qui peuvent ressortir, ça va être d'un côté, est-ce qu'il faut augmenter les moyens de lutte contre les incendies, ou plutôt essayer de faire plus de prévention et du coup limiter le... Excusez-moi, c'est dès qu'on parle d'incendie. Donc voilà, au niveau de l'incendie, voilà, soit on augmente les moyens de lutte, soit on augmente la prévention. Mais qui dit augmenter la prévention dit avoir une action sur le paysage, une action sur la forêt, etc. Au niveau de l'avenir de l'agriculture, les questions qui se posent, c'est est-ce qu'il faut maintenir une agriculture, mais comment? Comment on peut faire vivre des gens sur ces terrains qui sont quand même des terrains difficiles? Bien souvent, le pastoralisme qui ressort comme questionnement à ce sujet-là. Et au niveau des conflits d'usage, faut-il au contraire plutôt réglementer ou faut-il faire plus de la pédagogie, de l'éducation, etc. Donc tout ça, c'est un peu les questionnements qui émergent à partir des premiers sujets qui ressortent dans les débats. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans les discussions, petit à petit, on voit que tous ces sujets-là sont interconnectés. Et du coup, les gens, et ça c'est vraiment un point assez important dans les débats, on remarque qu'au fur et à mesure que le débat se déroule, les gens ont de plus en plus une vision systémique. C'est-à-dire qu'ils commencent à voir tous les liens entre les différents points. Par exemple, si on parle d'incendie et qu'on commence à se dire ben, il faut limiter le combustible pour éviter d'avoir trop d'incendies, hop, on va arriver sur eh ben, pourquoi pas le pastoralisme, etc. Si on arrive au pastoralisme, ça nous fait poser des questions sur à quelle échelle, comment on le vend, l'avenir de l'agriculture, des filières, etc. Donc on voit qu'il y a tout un tas de liens entre ces différents sujets. Et il y a quelques propositions qui en ressortent. Là, j'en ai juste mis quelques-unes. Des propositions qui ressortent très souvent, c'est la remise en place du pastoralisme. Des filières courtes, c'est-à-dire justement pour favoriser de l'agriculture en garrigue, il faut des filières très courtes entre l'agriculteur et le consommateur, profitant notamment du bassin de consommation très important qu'on a ici entre Nîmes et Montpellier. La valorisation du patrimoine bâti est également quelque chose qui ressort assez fortement, notamment dans les garrigues gardoises avec tout le patrimoine des capitelles, etc. Et la notion clé de paysage. On voit que finalement, lorsqu'on commence à parler de paysage, ça permet justement de traiter toutes les différentes thématiques qu'on a vues. Et du coup, d'essayer d'amener une gestion d'un territoire à partir de cette notion clé de paysage. Donc là, on a mis juste quelques propositions qui sont sorties. Je crois qu'à l'accueil, on vous a passé un petit papier aussi. Si vous avez d'autres propositions ou des questions plus précises, n'hésitez pas à le marquer. On récoltera ça à midi pour justement compléter toutes ces propositions qu'on peut faire sur l'avenir du territoire des garrigues. Alors là, je vais vous présenter juste quelques cartes sur lesquelles a travaillé Julien notamment, pour essayer un peu de donner du contenu sur ces garrigues, sur ce territoire des garrigues. Ce qu'on a bien remarqué avec l'itinérance de l'exposition, c'est que à la fois, quand on va dans les garrigues de Lussan, au nord-est du Gard, ou dans les garrigues d'Omelas, dans l'Hérault, on a des problématiques très proches. Mais néanmoins, il y a quand même des bassins de vie. Donc là, on a fait une carte avec un petit peu les différentes entités paysagères qu'on trouve sur ce territoire des garrigues. Donc les garrigues languedociennes, c'est un peu une mosaïque de paysages. Je ne sais pas si vous le lisez très très bien. Par contre, vous avez cette carte, toutes les cartes que je vais vous présenter, vous les avez sur la clé USB. Une autre carte, ça c'est pour présenter un petit peu les entités géologiques très simplifiées qu'on trouve sur ce territoire-là. On voit qu'il y a des zones vraiment de calcaire dur, des zones plutôt marnes des calcaires et des zones plutôt argileuses. Donc les zones argileuses, ça va être plutôt des bassins ou des petites plaines. Les zones de calcaire dur, ça sera soit des massifs, soit des plateaux. Alors là, celle-là, c'est petit, mais je vais vous la décrire un petit peu. On a essayé répertorier un petit peu tous les statuts, inventaires et classements en faveur du patrimoine naturel dans le pays des Garrigues. Donc on a en premier, en haut à gauche, les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, ce qu'on appelle les ZNIEF, qui sont juste un inventaire. En jaune, on voit des petites taches jaunes, c'est des arrêtés préfectoraux de protection de biotope, c'est vraiment un endroit où il y a une espèce protégée, rare, on met un arrêté de protection de biotope. En marron et en bleu, c'est des sites Natura 2000. Et en beige et en rose clair, là, c'est site inscrit, site classé. Alors, ce qui est intéressant de remarquer sur cette carte, notamment quand on regarde les ZNIEF, c'est que on remarque que ça reprend, il y a beaucoup de statuts de protection, d'inventaire sur les zones de calcaire dur. Si on reprend par rapport à la carte d'avant, on va vraiment retrouver un petit peu les mêmes découpages avec, par exemple, les garrigues de Nîmes ou les garrigues de Lucan. Hop, on va retrouver des protections sur ces zones-là. Une carte sur les AOC viticoles, avec les côtes du Rhône à l'est, Costières de Nîmes et Coteaux du Languedoc. On voit que la vigne est très importante sur le territoire des Garrigues, dans la partie héroltaise notamment. Et où il y a un très fort dynamisme, notamment ici sur l'AOC du Pic Saint-Loup. Et là, c'est les autres AOC autres que vin. Donc on voit l'AOC de l'Oignon Doux des Cévennes qui est en limite nord au niveau de Ganges, en vert. L'AOC Olive de Nîmes, qui prend quasiment toute la partie gardoise du territoire des Garrigues. L'AOC Taureau de Camargue qui remonte justement sur le territoire des Garrigues et l'AOC Pélardon qui est très grand et qui prend effectivement une grande partie de la zone. Voilà, donc c'était la dernière carte. Voilà un petit peu le travail qu'on a fait. L'idée c'est de récolter toutes ces informations et de faire une encyclopédie vivante des Garrigues où justement on cumulera toutes ces informations qu'on récolte au fur et à mesure de l'itinérance de l'exposition avec un site internet où on pourra trouver toutes ces cartes qu'on va enrichir, etc. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Merci.